Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h09 de retour dans les grandes gueules du sport. Merci de votre fidélité. Bon dimanche matin, on vous accompagne jusqu'à midi. Si vous êtes en repos, bah voilà, soyez les bienvenus tranquillement avec nous. Si vous avez manqué la première heure, n'hésitez pas à aller nous podcaster. Évidemment, si vous travaillez, bon courage à vous. On sait ce que l'on sait. On sait ce que c'est le dimanche matin. Toujours avec Christophe Cessieux, Simon Dutin, Sarah Pitkowski, Christophe Furios pour la première fois dans le studio RMC et une GG qui nous rejoint maintenant, qui d'habitude est dans le studio, et quand Christophe Furios est là, et ben il n'est pas dans le studio, c'est notre ami Stephen Brun. Salut Stephen.
Salut les amis, bonjour tout le monde.
Stephen, je voudrais que tu aies un mot quand même, oui, peut-être d'excuse envers Christophe qui est monté spécialement pour te voir.
Alors là mon pote, à mon avis...
Non, mais je suis désolé. Alors, il faut savoir que la France du basket brille, comme tout le monde le sait. Et Berlin avait besoin de moi. Berlin avait besoin de me voir. Berlin avait besoin de me voir la nuit, surtout. Non, mais l'équipe de France est. Je suis là pour soutenir l'équipe de France. Donc, je suis désolé pour Christophe. Mais déjà, je suis content parce que j'ai pas à croiser son petit Bermuda très stylé qu'il a mis.
C'est mon gâteau. T'as raté les mocassins.
C'est le côté bordelais. C'est le côté bordelais.
Ah,
Oyo, j'étais pas comme ça.
Mais je suis content parce que Christophe a gagné hier, donc il est de bonne humeur, c'est le principal.
Voilà, Christophe, un petit mot pour Stephen que tu souhaitais voir.
Bah ouais, je t'avais dit que je pourrais venir ce week-end-là parce qu'on jouait Castres à 15h, c'était pratique pour moi, mais à condition que je croise ce fameux Stephen. J'ai branché plusieurs fois.
Exactement.
Donc je suis un brin triste, mais bon.
Ce sera l'occasion de revenir nous voir à un moment donné dans la saison, même si évidemment
je regardais s'il n'y avait pas des avions pour aller à Berlin ce soir, mais ce sera compliqué.
Dans quelques instants, nous allons passer la seconde autour justement évidemment de cette finale de l'Euro France-Espagne. Détester les Espagnols, jouer sur cette rivalité, est-ce le bon moteur pour cette finale? 10h30, Yann Ulrich, l'ancienne gloire du cyclisme, va sortir son documentaire sur Amazon Prime Video pour raconter sa vérité, lui qui a reconnu s'être dopé durant sa carrière, les tricheurs qui font commerce de leur histoire. Est-ce que vous êtes en colère ou pas en colère, les GG? Sachez que juste après, Marc Madio sera avec nous car il voulait réagir à une polémique, non pas sur Yann Ulrich, mais sur le cyclisme, avec ce voyage en classe affaires et en classe éco pour l'équipe de France qui est partie en Australie. Et puis à partir de 11h, le bras de fer autour des célébrations des sportifs. Team Limite. Non, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Team No Limite. Je vous explique tout ça dans un instant.
23-0, c'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais.
Jean-Jules Richard a dit un jour, on ne peut bien vaincre que ce que l'on déteste.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
On y va là.
Parker qui a l'écran de Joan Pietro pour peut-être le panier à 3 points.
Yes, on y a une possession.
Oh yeah.
Spain have won the gold medal the second time in a row at the Eurobasket.
Bon moment et mauvais moment de part et d'autre. Voilà, on a tous des bons et de mauvais souvenirs l'un contre l'autre. Donc,
Mais on les a tués. On est en finale. Basta Kotu. Mais oui. Oh le regard. Oh le regard de Tony Parker.
Et on n'aura pas encore. Et voilà. Et on perd ce match au lancer franc. C'est abominable.
Presque le pied sur la ligne.
C'est abominable. On a perdu ce match au lancer franc.
On les aime pas parce qu'ils sont forts, mais je pense qu'on les aime pas parce que ce qu'on est fort et qu'on peut leur créer des problèmes.
Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Et ça se voit dans leur visage. Ils nous prennent pour de la merde.
Ah oui, un véritable je t'aime, moi non plus. Merci à Maxime Abolin pour cette production. 6 ans après leur dernier affrontement, les deux ennemis, la France et l'Espagne, se retrouvent donc ce soir en finale de l'Eurobasket. Une rivalité intense entre 2009 et 2016, surtout en pleine génération Parker, à coups de mauvais gestes, de fras choc, de victoires magnifiques et de défaites absolument horribles. La musique qui fout les jetons. Et cette question, mais GG. Jouer sur cette rivalité, est-ce le bon moteur pour la finale? Oui ou non? Sarah Pitkowski.
Oui, c'est un moteur.
Christophe Furios.
Oui, c'est un moteur, effectivement. Maintenant, c'est pas le seul. Hein.
Ok, mais c'est plutôt oui. Christophe Cessieux.
La haine est mauvaise conseillère.
Ok. Simon Dutin.
C'est comme Christophe, moi, je n'aime pas la haine. Je pense pas.
On a parlé de rivalité.
Ok, on arrive dans quelques instants pour le débat. Stephen Brun, au moins.
La question, oui, c'est détester l'Espagne, est-ce un bon moteur avant la finale? Là, il a changé la question, là, tu vois.
Oui,
il l'a atténué.
Hein, oui, mais bon. Donc il faut changer.
Ça. Non, mais attends, c'est Jean-Christophe, ça.
J'arrive, Simon, s'il te plaît. Stephen Brun, oui ou non?
Non, pas là.
Non, pas là. Ouais, très bien. Avant de débattre, voilà, on va retrouver la voix du basket sur RMC. C'est Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Salut les GG.
Salut Arnaud.
Vincent Collet va-t-il insister sur cette rivalité, lui qui l'a connue évidemment avant cette finale?
Pas tant que ça, car les joueurs de cette année ont été moins touchés que leurs illustres prédécesseurs. Tu les as mentionnés, Tony Parker, Boris Diaw, Florent Pietrus. Je rajoute évidemment Nicolas Batum et Nando De Colo qui sont toujours en activité, mais pas présents à cet Euro. Le dernier France-Espagne en compétition remonte quand même il y a 6 ans. Et les 12 Français présents à Berlin n'ont pas autant souffert que la génération précédente. Et globalement, voilà, l'équipe d'aujourd'hui n'était pas sur le terrain lors des blessures au JO de 2012-2016, finale de l'Euro 2011. Il y a eu la belle victoire en 2014 à la Coupe du Monde en Espagne, face à la grande Espagne. Et finalement, que cette équipe de 2022 n'ait pas autant eu de blessures, ça ne déplaît pas à Vincent Collet, le sélectionneur qui lui a tout connu.
Je pense que c'est une autre époque, parce que c'est pas la même génération. Et c'est une bonne chose pour nous, parce que cette génération-là n'a pas souffert contre les Espagnols. Voilà. Contrairement à la précédente, hein, qui était quand même... même si on voulait se les sortir de nos têtes, ils y étaient quand même toujours un peu.
Même sentiment chez Evan Fournier, car c'est par le prisme des anciens que cette rivalité existe encore. Il raconte comment était Boris Diaw à l'annonce de la finale France-Espagne. Diaw et ses 247 sélections est aujourd'hui manager général de l'équipe et il a vécu beaucoup de traumatismes face à Rudy Fernandez et ses copains.
L'Espagne, c'est vraiment par rapport aux anciens. Pour être honnête avec vous, Boris, hier, t'as l'impression que c'était un joueur. Et il voulait mettre son short, ses chaussures et foutre des brins, tu vois. C'est très marqué chez les anciens. Il se trouve que notre coach, les kinés, Théo, l'intendant, Fabrice, etc. Voilà, ils ont vécu beaucoup de moments contre l'Espagne, plutôt mauvais. Et ça se ressent chez eux. Nous, les joueurs, beaucoup moins, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu. Un gars comme Thomas, moi, Rudy, on arrive en 2014 et on gagne contre eux. Alors on perd en 2015, certes, mais c'est pas exactement pareil. Donc.
Et pour conclure, je vais remuer le couteau dans la plaie sous Vincent Collet, donc depuis 2009, le bilan français contre l'Espagne, 3 victoires, 14 défaites.
Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces précisions. Jouer sur la détestation des Espagnols, est-ce le bon moteur pour cette finale? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Nicolas Batum, qui a bien connu les Espagnols, sera avec nous dans quelques instants. Stephen Brun, tu démarres ce débat, oui. Pour toi c'est non, pas là.
Bah, vous l'avez entendu, et pour avoir discuté avec pas mal de garçons hier lors de la dernière séance d'entraînement, eux ils sont pas omnubilés par les Espagnols parce qu'ils ont pas vécu les traumatismes. Alors peut-être que Vincent Collet, Boris Diaw, forcément essayent de discuter avec eux pour leur faire comprendre le poids de l'histoire. Mais eux il y a pas véritablement de haine. S'il y a un garçon qui peut peut-être énerver les Espagnols, c'est Rudy Fernandez, Rudy Lamèche, ce qui est le plus ancien joueur espagnol qui on n'en peut plus de lui, on le déteste. Nico ne l'aime pas non plus, il pourra vous le dire tout à l'heure, mais ces garçons-là, en fait, cette équipe espagnole, il n'y a pas de grandes stars. Tu vois, il n'y a pas de mecs il n'y a pas d'icônes, ce sont des joueurs du championnat espagnol, quelques petits joueurs NBA, mais qui n'ont pas non plus des grands rôles dans les équipes NBA. Donc, il n'y a pas à avoir de haine contre les Espagnols, qui sont là à la surprise générale. Et Rudy, Evan, Gershon Yabusele, en plus, on a un paquet de joueurs qui jouent dans le championnat espagnol, qui jouent dans les mêmes équipes que les garçons qui vont jouer. Donc, je ne suis pas sûr que la haine soit là. La vraie motivation, ce soir, c'est d'être champion d'Europe pour cette génération, Rudy Gobert et Evan Fournier, et faire que leur équipe, sans Nico, sans Nando, puisse être sur le toit de l'Europe. Donc il n'y a pas vraiment de haine, et je ne suis pas sûr que ce soit un bon moteur, parce que tu ne vas pas embrouiller un mec alors que tu n'as pas un passif avec lui, ça ne sert à rien. Quoi.
Bien sûr, il n'y a pas de passif, mais on sait que les anciens collègues que l'on a très bien côtoyés ont eux un passif, et on veut peut-être faire perdurer et jouer sur cette rivalité. C'est pour ça qu'on vous parle de moteur, pour Stephen Sennon. Christophe Furios, le manager. Bah oui, c'est un moteur.
Oui, moi, je comprends ce que dit Stéphane, évidemment, et je le partage aussi. Hein. Ça dépend tellement du contexte. Ça dépend tellement du contexte. Ça dépend tellement des joueurs que tu as à ta disposition. Comment ils sont câblés. Comment c'est quoi leur moteur de motivation en fait, quoi. Donc voilà. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est indispensable. Ça permet d'élever son niveau. J'aime préparer les matchs avec de la rivalité. J'aime préparer les derbies. Je me sens à l'aise dans ce combat. Je vais vous raconter une histoire si j'ai 3 minutes. Quand je suis arrivé à Castres, par exemple, nous, Castres-Toulouse, c'est une vraie rivalité. Tout nous oppose, la grande ville, la petite ville, les grandes équipes, la laborieuse. Et quand je suis revenu à Castres en 2015, la première année, on perd assez facilement en 30 et des brouettes. Et j'entendais dans le discours des joueurs que c'était la bête noire, que... Putain, mais c'est pas possible, il y a plus que ça, quoi. Et en fait, quand on a reçu cette équipe, et puis depuis, je l'ai instauré en tant que rituel. Je faisais venir les anciens la veille des matchs, qui parlaient un peu de cette équipe de Toulouse, qui était une équipe redoutable, qui est une équipe redoutable. Et souvent les Castrés en a morflé contre eux, quoi. Donc, et je voulais qu'ils partagent ça un peu. Les gars, Toulouse, c'est pas qu'un match, hein. C'est pas qu'un match. Et il se trouve que les trois années qui ont suivi, dont les six rencontres, on a quasiment plus perdu de matchs. Donc ça, c'est pas parce qu'on a fait venir les anciens, hein, mais parce qu'on s'est mis dans le contexte de dire bon, c'est pas un match comme les autres. Si je fais ça à Bordeaux, je l'ai fait parfois sur les matchs avec La Rochelle, par exemple, où il y a une espèce de rivalité, mais finalement on gagne pas les matchs. Donc il faut que je
tombe. Il faut bien choisir son moment.
Voilà, il faut sentir le moment, le contexte et puis les joueurs que tu as. Voilà, nous à Bordeaux, on va plutôt insister sur la notion de rugby, quoi, parce que on est des garçons comme ça. À Castres, je pouvais insister là-dessus parce que j'avais des grognards, quoi, et des mecs qui aimaient ça. Donc j'étais à l'aise avec ça.
Nicolas Batum est avec nous dans quelques instants. Un mot quand même chacun sur cette détestation. Christophe Cessieux.
Moi je pense pas que ce soit la haine est pas bonne conseillère. Rappelez-vous, il y a des exemples dans tous les sports. Nico va pouvoir en parler, mais il y a ce match, je crois que c'est en quart de finale des Jeux à Londres en 2012. Bon, l'équipe de France est menée par l'Espagne, elle est quasiment en train de perdre le match et Nico tu sens qu'il y a tellement de haine envers cette équipe, il fait un geste incroyable, il lui met quasiment
le crochet.
Ah, oui, c'est le plus beau geste, c'est le plus beau geste du basket français sur l'espagnol.
Aujourd'hui, ça reste dans les annales. Rappelez-vous de Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006. Évidemment, l'autre lui fait vraiment péter les plombs. Mais il réussit à lui faire péter les plombs. Et puis rappelez-vous aussi de tous ces souvenirs des France-Angleterre où les Anglais nous détestaient, mais surtout savaient nous rendre fous et nous faire dégoupiller. Et on a perdu un nombre de matchs incalculables, notamment dans les années 90. Face à l'Angleterre dans le fameux crunch, parce que on les détestait, mais ils s'amusaient justement et eux ils contrôlaient le truc et nous on savait plus contrôler rien du tout, quoi.
Mais qui dit que les Anglais n'utilisaient pas le fait de détester la France?
Oui, mais alors ils savaient garder la mesure,
ils nous méprisaient et ils n'avaient pas du tout cette espèce de
le sur nous. Le latin, tu lui mets un drapeau, un truc rouge devant le nez.
Qui vous dit que dans les vestiaires, l'entraîneur ou le manager n'utilise pas cette rivalité pour aller chercher quelque chose de plus?
Il faut la garder, mais ça ne veut pas dire
qu'on ne l'utilise pas comme élément de motivation.
Je pense vraiment que c'est la qualité de ton groupe, quoi, qui est importante. Oui. Voilà. Il y a des joueurs qui sont câblés comme ça, qui ont besoin de ça, c'est un moteur. Hein. Et d'autres, ben un peu moins, et d'autres ça les touchera pas parce que l'histoire a fait que c'est comme ça, parce que leur histoire personnelle comme ça, mais moi quand même j'ai la faiblesse de penser que dans les matchs comme ça, à un jeu très important avec des rivalités encore fortes, ça te permet quand même d'élever ton niveau, alors que ce soit sur le plan de l'agressivité mais aussi sur le plan de la réactivité de ton jeu, d'être ensemble, de faire un bloc. Je pense que ça reste un moteur quand même fiable, même si encore une fois il y a des joueurs qui sont pas capables de l'assumer.
Mais on parlait des joueurs qui n'ont pas connu forcément cette rivalité, même s'ils l'ont vécu dans leur canapé comme nous, et même nous à un moment donné on en venait à détester un peu les Espagnols, vous voyez ce que je veux dire, du basket, hein, en toute bienveillance. Il y a encore Vincent Collet, il y a Boris Diaw dans le staff et eux ils l'ont connu. Nicolas Batum, tu faisais référence à ce crochet magnifique pour Stephen Brun, pour nous aussi un petit peu quand même. Nicolas Batum est avec nous, salut Nico.
Ça va tout le monde?
Salut Nico. Écoute, très bien, on est très heureux de te recevoir dans cette émission pour parler des Espagnols. Est-ce que selon toi, essaye de répondre à cette question, il faut jouer sur cette rivalité ce soir, même si c'est un autre contexte, même s'il y a d'autres joueurs?
Je pense que nous, les fans, qui l'ont regardé, oui. Si ça peut nous motiver et d'avoir, en tant que supporter, les pousser, oui. Mais les 12 joueurs, non. Non, parce que même si Vincent peut passer son discours là-dessus, je pense qu'il va le faire. Et Ivan a très bien dit, et Steph aussi, ils n'ont pas connu ce qu'on a connu. Donc, la plupart des joueurs, les trois quarts des joueurs n'ont pas connu et souffert et vécu ce que nous on a connu face à eux. Puis en face c'est pas non plus les mêmes joueurs. Il y a pas les frères Gasol, il y a pas Navarro, il y a pas Llull, il y a pas Rubio, il y a pas Rodriguez, il y a pas Ibaka, il y a pas Mirotić. Il manque quasiment tout le monde. L'équipe qui ils sont champions du monde en titre, mais l'équipe qui est championne du monde en 2019, tous les gros joueurs qui ont donné le titre mondial ne sont quasiment pas là, à part Rudy Fernandez et peut-être Hernán Gómez qui avait des petits rôles mais pas des gros rôles majeurs.
Mais Nicolas, toi, tu es dans cette équipe. Imagine, tu es dans cette équipe si tu avais été en finale de l'Euro avec eux. Mais je sais, mais est-ce que toi, tu aurais insisté là-dessus sur le poids de l'histoire parce que ça te semble indispensable pour préparer une finale?
Il est où Navarro?
Oui, ou bah si j'avais été là, ça aurait été différent parce que moi, j'ai un joueur qui a vécu tout ça ou Nando pareil. Mais là, c'est une équipe où les deux leaders ont eu une défaite par exemple en 2015. Mais comme a dit Evan, la première fois qu'ils jouent l'Espagne, lui, il est bas à domicile. Il leur crève le cœur. C'est son premier souvenir en jouant l'Espagne. Donc c'est différent. Mais je pense que eux, ils sont dans un mode où ils sont plus en mode on a déjà crevé le cœur de l'Espagne, on va continuer à le faire que l'inverse. Donc ils commencent leur rivalité à eux en fait, ils la commencent eux-mêmes, ils sont favoris, ils le savent, c'est la première fois qu'une équipe de France est favori face à l'Espagne en demi ou en finale d'un grand championnat. L'histoire est inversée. Jouer sur la rivalité, ils ont pas besoin parce que c'est plutôt l'Espagne qui va jouer là-dessus parce que l'Espagne n'est pas favori ce soir. Et l'Espagne va jouer là-dessus.
Ok.
Nous, non.
Après, c'est un ressort pour une autre équipe. Stephen Brun et après Simon Dutin.
Après, je sais, Nico termine par l'Espagne va jouer là-dessus, mais cette équipe espagnole, elle est particulière. C'est qu'ils ont un meneur de jeu qui est le meilleur joueur de cette équipe-là, qui a eu un passeport qui s'appelle Lorenzo Brown, qui est un Américain, qui a eu un passeport il y a 2 mois. Moi, je suis curieux de voir comment les Espagnols, Sergio Scariolo et ses coéquipiers, vont, en l'espace de 2 jours, inculquer cette rivalité à Lorenzo Brown, qui, de l'Espagne, je sais même pas ce qu'il connaît, les churros et les tapas. Donc, ça
vous avec le meilleur joueur de match qui connaît rien sur la rivalité française.
Il connaît rien à la rivalité, donc il va regarder une vidéo, il va voir Nico mettre un énorme coup de sagaie dans les Chicago Bulls de Juan Cannavaro, c'est tout ce qu'il va voir. Mais je suis pas sûr qu'il ait vraiment une haine contre les Français.
Justement, Nico, moi c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que lors des multiples rencontres avec les Espagnols, il y avait cette espèce de tension, il y avait les mâchoires un peu serrées parce que il y avait eu des défaites, il y avait des envies de revanche. Est-ce que toi, lorsque tu rentrais sur le terrain avec tes copains, tu sentais que en face, il y avait la même envie de vous taper quoi, la même rivalité celle qu'on nourrissait nous en France face à eux?
Parce que mais sûrement ils l'ont dit. Je pense qu'il y a eu, on savait très bien qu'à un moment donné, on va aller se rencontrer, nos chemins allaient se croiser quoi qu'il arrive. Et ça s'est quasiment passé à chaque fois. Et à chaque fois, il y a eu une échauffourée, il y a eu une grosse faute, une bagarre, il y a eu une manchette, des expulsions. Il y a eu, mais quasiment à chaque fois. Donc, quand on se croise avant après le match, l'année dernière, on est joué à Bercy, on est au même hôtel et tout le monde se dit bonjour et papa dans le haut de l'hôtel. Mais par contre, quand le ballon est lancé, ça joue les 5-5, on peut pas se blairer. Mais parce qu'on se respectait mutuellement, on était les deux meilleures équipes d'Europe.
Et alors ça, c'est intéressant, parce que comme ça, on se dirait pas, il y a du respect. On sentait une rivalité, une haine.
Mais énormément de respect.
Toute proportion.
Il y a une haine. Ah, mais il y en a une. Regarde, Gasol et Tony ont joué ensemble à San Antonio. Ils étaient super potes. Mais par contre, quand il y a maillot bleu et maillot rouge, ils pouvaient pas se saquer.
Stephen Brun.
Mais c'est ce que c'était comme ça.
Mais alors. J'ai une petite anecdote ici. Je peux vous dire que la haine Espagne-France, elle existe encore, mais chez les anciens. Alors, il faut savoir que moi, en tribune de presse, j'ai le maillot de l'équipe de France et je suis insupportable pendant les matchs de la France. Je me lève, j'encourage.
On l'imagine.
Tout le monde me voit en tribune de presse. Je mets la haine à tout le monde. Et hier, j'ai reçu un message de la FIBA qui m'a dit Monsieur Brun, des collègues espagnols m'ont dit de vous dire qu'il ne fallait pas mettre le maillot de la France. C'est interdit en tribune de presse. Il fallait que vous soyez un petit peu calme. Donc, tu vois, cette haine, elle est là. Chez les anciens. Mais bien sûr que je vais le mettre, Nico. Tu le sais. Oh.
En plus, c'est le dernier match. Alors, même si après,
il verra les prochains championnats en studio à Paris. C'est pas grave.
Nicolas, une dernière question. Nicolas Batum avec nous en direct dans les GG du sport. J'imagine que tu as des copains au téléphone, par texto. Ils vont comment? Ils sont prêts?
Bon, non, je les ai pas eu. J'ai juste vite fait après la demi-finale. Je parle à Rudy le soir, demi-finale. Mais un truc comme ça, je laisse tranquille. C'est leur moment. C'est leur moment, c'est un gros match. Ils vont peut-être, à part Thomas, ils n'ont jamais connu ça. Il n'y en a aucun, je crois, qui a été champion d'Europe, ou très peu. Enfin, surtout les deux leaders, je sais qu'Evan, ils recherchent ça depuis qu'il a 15 ans. Non, je les laisse dans leur truc. C'est leur moment, c'est leur finale, ils peuvent écrire leur histoire. Donc,
ils vont gagner ou pas
mes intérêts à gagner, ils vont gagner. J'ai juste envoyé un message sur le groupe tout à l'heure, mais je vais juste laisser dans leur truc, ça sert à rien. C'est leur moment, eux.
Bah, j'imagine en tout cas à quel point tu dois avoir des fourmis dans les jambes quand tu vois un France-Espagne, toi qui as connu évidemment ces grands France-Espagne qui nous ont fait vibrer, mais aussi qui nous ont un petit peu traumatisés. Merci Nicolas Batum d'avoir été avec nous et à très vite sur RMC dans les grandes gueules du sport évidemment et premier supporter des Bleus ce soir pour ce match face à l'Espagne. Stephen Brun, tu vas faire quoi de ta journée mon cher Stephen? C'est 20h30.
Tu veux mon petit planning?
J'aimerais bien un petit planning croustillant, on a tous envie de savoir.
Alors déjà, j'ai fait
savoir que je me suis réveillé à 9h45 pour être prêt avec vous à 10h. Je trouvais ça important de faire un réveil musculaire pour être en forme avec vous.
Bien sûr. C'est bien le dimanche matin de pouvoir se lever à 9h45. Ça, c'est rare hein, pour toi.
Oui, c'est très bien. C'est magnifique. Surtout que j'ai fait une petite semaine agitée parce que je suis allé voir les bas-fonds de Berlin et il se passe des choses un petit peu particulières. Après, écoute, je vais retourner dans ma chambre. J'y sais, je vais faire ma petite lecture de presse, revue de presse pour prendre quelques informations. Après, je vais aller me marcher, me balader. Après, j'ai pas mal de points à faire parce qu'on fait quand même une journée
sur RMC, bien sûr.
On reçoit beaucoup d'invités, beaucoup d'anciens champions d'Europe 2013, Michael Gillabal, Antoine Diot. On aura Boris Diot à 19h, à 1h30 du coup d'envoi.
Dans Bartoli Time, tu seras là également.
Dans Bartoli Time, exactement. Donc voilà, je vais me mettre un petit peu dans le banc. Je vais aller voir ce qui se passe près de la salle, s'il y a 2-3 mecs avec des drapeaux espagnols pour mettre une petite balayette tranquillement.
Okay. Très bien. Et tu mettras évidemment le maillot ce soir de l'équipe de France.
On veut des photos.
Je vous enverrai une photo.
Si tu mets le maillot, tu es mon idole. Hein.
Envoie la photo à Christophe. Merci Stephen et passe une belle journée.
Merci à vous.
À bientôt évidemment. On te retrouve toute la journée, 20h30 au commentaire. Stephen Brun, Arnaud Valadon. On se retrouve dans quelques instants pour un tout autre sujet où il est question de documentaire pour une ancienne gloire du cyclisme qui a avoué s'être dopé. Ça vous plaît, ça vous plaît pas? A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi, toujours avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Christophe Furiot, Simon Dutin. Ce matin, sachez que dans une dizaine de minutes, nous allons faire un nouveau zapping des GG avec une information. Surtout, on parlait hier de la polémique sur les mondiaux de cyclisme, cette équipe de France qui est partie en Australie, à l'autre bout du monde, avec les hommes, en tout cas les professionnels, parce que c'est important de le rappeler, professionnel homme en classe affaires. Et puis le reste, en classe éco, ça fait polémique. Marc Madiot voulait réagir à notre GG, donc il sera avec nous. Restez bien avec nous, ce sera dans une dizaine de minutes. Encore du cyclisme dans les grandes gueules du sport. Il est temps, c'est le nom du documentaire consacré à Yann Ulrich, produit par Amazon Prime Video. L'ancien champion de cyclisme qui a remporté son unique Tour de France il y a 25 ans va se confier sur sa carrière, ses succès mais aussi ses déboires. Une sorte de grand déballage pour celui qui a avoué s'être dopé en 2013. Arnaud Souk, notre spécialiste vélo, est avec nous. Salut Arnaud.
Salut les amis.
Et c'est vrai que c'est un documentaire qui pourrait faire du bruit.
Oui, une série documentaire qui s'annonce pleine de révélations hein, sur la vie du vainqueur du Tour 97, également champion olympique en 2000, double champion du monde du chrono. Il annonce vouloir y raconter son histoire, toute son histoire, celle d'un coureur au sommet de son art, au cœur même des années EPO, d'un champion sommet d'arrêter sa carrière en 2006, confondu par ses liens avec le docteur Emiliano Fuentes, organisateur du plus grand système de dopage de l'histoire du vélo. C'est la fameuse affaire Puerto. Alors, ça n'est pas la première fois hein, qu'un sportif s'apprête à faire de grandes révélations de ce type dans le cyclisme. Déjà, tour à tour, d'anciens coéquipiers de Lance Armstrong, comme Frankie Andreux, l'un de ses plus fidèles porteurs de bidon, ou encore Georgine Capi, ont avoué entre 2006 et 2012 aux autorités antidopage américaines avoir eu recours à des pratiques illégales alors qu'ils couraient avec le septuple vainqueur de la Grande Boucle. Des révélations qui ont entre autres choses poussé Armstrong à lui aussi reconnaître avoir utilisé de l'EPO durant sa carrière, se voyant des années après destitué de la totalité de ses victoires sur le Tour. Le rugby lui aussi a connu son repenti, décédé depuis d'un malaise à l'âge de 41 ans en 2019. Trois ans plus tôt, Anthony Martrette, professionnel, ayant évolué notamment à Bourgoin-Colomiers ou encore à l'USAP Perpignan, fut le premier à briser le tabou du dopage dans le rugby, révélant avoir eu recours durant sa carrière à des pratiques illégales encouragées selon lui par certains préparateurs physiques. Il avait au passage dénoncé une grande hypocrisie, je le cite, dans son sport relative à cette question. Et puis enfin, la liste n'est pas bien sûr exhaustive, mais citons le cas Johannes Dürr, le fondeur autrichien dont les confessions avaient permis la révélation en 2019 d'un vaste réseau de dopage sanguin. Souvenez-vous, c'était le début du scandale de l'affaire Aderlas.
Merci beaucoup Arnaud Souk pour toutes ces précisions. Faire commerce de sa tricherie. Est-ce que vous êtes en colère ou pas les GG? En colère, pas en colère? Christophe Cessieux?
Non, pas en colère.
Christophe Furios?
Non, pas en colère.
Ok, un petit peu quand même.
Ça dépend comment c'est traité quoi.
Ok, très bien. Simon Dutin, en colère?
Pas en colère.
Pas en colère. Sarah Pitkowski?
Pas du tout en colère.
Pas du tout en colère. Je vais aller voir Christophe Furios parce que pourquoi tu sais pas sur quel pied danser.
Bah je sais pas parce que ça dépend ce rapport d'expérience sur quoi il va porter quoi, tout simplement. Le mec qui triche, il a triché. Alors c'est un contexte, c'est une organisation probablement. Donc si c'est pour juste revenir sur des choses qu'il a faites et faire du business derrière, bah, je, pour moi ça compte pas. Maintenant, si c'est un rapport d'expérience qui va expliquer comment il est tombé là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a été manipulé probablement, est-ce que c'était obligatoire, un passage obligé, est-ce que c'est un reportage ou des reportages qui vont être orientés aussi vers la jeunesse. Là, j'y vois évidemment du positif. Sinon, si c'est juste... bon, excusez-moi les gars, j'ai triché, mais bon, hein, mais dégage, quoi, on n'a pas besoin de toi.
Ok, Simon Dutin.
Vous vous souvenez lorsque Lance Armstrong a avoué s'être dopé. Moi, je travaillais dans une rédaction à l'époque. On a su plusieurs semaines à l'avance que tel jour, il serait chez Oprah Winfrey.
Oui.
C'était le show aux États-Unis, machin. Oprah Winfrey, c'est...
Oui, bah parce donc que les reportages sur les plateformes n'existaient pas. Mais je peux t'annoncer que si c'était le cas aujourd'hui, on en aurait une sacrée série sur Lance Armstrong.
Exactement. Mais donc, à l'époque, le moyen peser au maximum aux États-Unis, lui, américain, c'était d'aller chez Oprah.
Et... monnayé. Est-ce qu'il
mais c'est ce que j'allais vous dire. Vous pensez que
non, Oprah, je pense qu'il est pas allé
que le show, que les pubs du show d'Oprah Winfrey, le jour où Lance Armstrong a annoncé et on savait qu'il allait... En fait, il venait pas... Va-t-il nous dire qu'il s'est dopé ? Il venait nous dire... Voilà, je vais tout vous raconter. Voilà, oui, je me suis... Donc, en fait...
Il a fait commerce. Parce qu'on sait que chez Oprah Winfrey, Harry et Meghan, c'était payé.
Mais oui, c'est ce que je viens de dire. Chez Oprah, rien n'est gratos.
Je ne crois pas qu'il soit plus juste... Juste pour la beauté du geste.
Il était pressé par les autorités judiciaires. De toute manière, il était encerclé. Il était obligé
aussi certains contrats. Il a aussi peut-être sauvé son association. Il y avait forcément un commerce, peut-être pas direct, mais il était forcément direct.
Il a réussi à monnayer. Oui. De toute façon, c'est très américain. Ah oui. Ses aveux de dopage. Mais là, je me tourne vers Christophe parce que j'ai couvert le Tour de France, j'ai été sur le bord des routes quand j'étais gamin. C'est quand même très compliqué, en fait, de faire... faire comme si toutes ces années n'avaient pas existé. Mais en fait, c'est pas possible. Parce que malgré tout, t'as les souvenirs. Je suis désolé, Christophe. On les a vécues, ces courses.
Ben moi, j'ai vécu,
à l'époque. Et tu sais, t'es toujours tiraillé entre... OK, ils étaient tous dopés, donc du coup, est-ce que c'est le meilleur qui a gagné ou est-ce que, genre, non, c'est dégueulasse, c'est à gerber, ces années, il faut les oublier. On peut pas les oublier.
Oui, mais est-ce que tu juges...
On peut pas oublier Yann Ulrich sur un vélo.
Est-ce que tu juges son reportage uniquement sur l'image qu'il t'a laissée ou en fait ce qui s'est passé depuis qu'il a arrêté?
Ce que je veux juste dire, c'est que...
Yann Ulrich ou pas aujourd'hui?
Ce que je veux juste dire, c'est que depuis qu'on...
Il a plus rien.
Depuis qu'on a appris que Yann Ulrich était lui aussi, il faut dire lui aussi, dopé lors de ces années... Bon, ben après tout, pourquoi franchement, on a envie de savoir.
Ok.
Qui nous raconte.
Pourquoi pas le raconter? Ok, ouais, c'est ton point de vue.
Effectivement, c'est un peu gossip, mais effectivement, on est curieux de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce personnage. Et quand tu lis la déchéance de ce champion, malgré tout, aujourd'hui, c'est. Peut-être qu'il y a forcément du commerce derrière, mais il y a une rédemption. Ça reste un être humain à un moment ou un autre. Comment tu fais pour te lever le matin et te regarder dans la glace après la déchéance dans laquelle tu es tombé alors que tu as été au sommet de ton art, tricherie ou pas tricherie? Donc je pense que ça... S'il y a du commerce derrière, mais ça doit aussi l'aider peut-être à continuer à vivre. Sinon, on finit comme un Marco Pantani. C'est-à-dire que ces gens-là, à un moment ou un autre, pour rester debout... Moi, j'admire. Je ne sais pas comment ils font pour rester debout.
Ok, donc voilà. Pas du tout en colère.
Non, pas du tout en colère. Ceux qui ne veulent pas regarder, ils ne regardent pas.
Notre voix du Tour de France, Christophe Cessieux, c'est quoi ton regard sur ce documentaire?
Moi, ça ne me choque vraiment pas, parce que la plupart des grandes histoires ont besoin d'être racontées après savoir ce qui s'est passé. Moi, j'étais sur le Tour en 97, quand Yann Ulrich remporte son premier Tour. À l'époque, on disait de lui, ce mec-là, il va battre tous les records. Il va battre Indurain, il va battre Hino, Merckx... C'est un surdoué du vélo, il a une puissance incroyable, ce garçon beau, incroyable, c'était une véritable mobilette dans l'école, c'était hallucinant. Et puis derrière...
Sur la selle, il se mettait jamais en danseuse.
Ah non, mais c'est une puissance, sur la selle. Une puissance dans les reins, une puissance dans les jambes, hallucinante. Et puis derrière, il est tombé sur Armstrong. Et ce gars-là qui était appelé à devenir le plus grand, est devenu le plus grand loser de l'histoire du vélo, même s'il a gagné un Tour de France. Mais derrière, rappelez-vous ces histoires, tous les hiver, il prenait 10-15 kilos, alors pour un cycliste c'est terrible, tu étais à la chasse au moindre gramme, et lui il se lâchait complètement, il faisait la fête tout l'hiver, c'est un drôle de personnage, et moi j'ai envie
de savoir ce qui se cache derrière lui. J'ai envie de qu'il nous explique ce qui s'est passé, comment il a vécu cette rivalité avec Armstrong, comment il a vécu ses défaites face à Armstrong, comment il est venu au dopage, est-ce qu'il était déjà avant qu'Armstrong s'y mette, est-ce que lui aussi se chargeait la gueule comme le faisait Bjarne Riis, son manager. Voilà, j'ai envie de tout connaître.
De savoir. Mais
évidemment, c'est important de savoir et qu'il en fasse commerce. Ce mec-là, il est à la rue aujourd'hui. Il a failli mourir. Il y a deux ans, Armstrong justement est allé le voir à l'hôpital. Il a dit j'ai jamais vu un mec dans un état pareil. Ce mec est un grand champion. Il doit avoir 50 balais et il était dans un état lamentable.
C'est un devoir d'information. Donc, pour les générations aujourd'hui.
Pas du tout. Même s'il gagne un peu de blé avec ça, ça me choque pas du tout. Il fait pas commerce de sa tricherie. Il fait commerce de son histoire, de sa vie.
Christophe, on se pose souvent la question dans les GG sur le droit à la seconde chance ou le droit un petit peu à l'oubli. C'est quoi ton regard là-dessus ?
Ouais, je pense et je le partage. Quoi. On a droit à une seconde chance. On peut se tromper, on peut faire des conneries. Ça peut arriver. Quoi. Après, ce qui est important, c'est pas de tomber, c'est de se relever. Quoi. Voilà. Là, on ne parle pas de la même chose quand même. Hein. La question, c'est il va faire du commerce de... Est-ce que vous êtes en colère parce qu'il va faire du commerce de son rapport d'expérience? Moi, je dis, si c'est juste pour faire du fric sur un truc où il a passé tant d'années à tricher, oui, ça me fait chier. Oui, ça me fait chier. Ouais, oui, ça me merde.
Mais Christophe, voilà. Il y a des criminels, des délinquants qui sont.
Oui, mais on parle plein, plus. Les criminels, c'est notre. Les criminels, c'est notre débat. Ça, c'est mon milieu, c'est le sport. Et le sport, je suis désolé, le sport, ça, même si on n'a pas besoin d'être exemplaire pour tout et tout le temps, ben, j'estime que par rapport on a des choses à revendiquer, voilà. Et alors, si par contre, ce rapport d'expérience, il est, oui, j'ai fait des conneries, oui, ça s'est passé comme ça, oui, j'ai été pris dans un...
Il faudra que ça soit romancé, Christophe.
Mais bien sûr.
Je suis pas d'accord parce que s'il le faisait pas peut-être lui-même, il y a bien un journaliste ou un mec qui raconterait l'histoire de Ulrich et qui irait l'interviewer en disant raconte-moi ton histoire et qui produirait son doc et qui se ferait du blé à la place
de Ulrich. Mais comme on a raconté les histoires des plus grands bad boys du sport mondial, Maradona, voilà. Lamotta, Armstrong, Pantani, James Hunt en Formule 1, c'est les bad boys, c'est ceux qui font, qui sont
je suis pas un spécialiste du cyclisme, mais il a rien de bad boy le mec, hein. Quand je le voyais sur un vélo, c'était un scientifique. C'était un mec de laboratoire, quoi. Ouais. Je parle pas par rapport au dopage. C'était que,
il avait aucune émotion.
Ce mec. Il avait aucune émotion, ce mec. Ça n'a rien à voir avec Maradona, je suis désolé. Il a aucune émotion.
Derrière, ça a été un bad boy. Derrière, il a fait n'importe quoi. Il est vraiment tombé au plus bas, quoi.
Ouais, mais ça, après, le mec, on va pas non plus, t'es responsable de ta vie, mec. Après, quand même, je pense que si c'est un vecteur, pour la jeunesse d'aujourd'hui, mais sur un plan large, quoi. Oh, vas-y. Si c'est juste pour. Dégage. Enfin, c'est mon avis. Hein, je suis désolé.
Et c'est important de le donner dans cette émission. Il est 10h45. Alors, je reçois pas mal de messages via le direct studio, et notamment de Karim N. À mon avis, ça doit être Karim Nedjari, notre patron. Il me dit Christophe Furios, il faudrait qu'il soit tous les dimanches en studio. Voilà, c'est très bon. Voilà. Donc, et. J'ai le président maintenant de l'UBB qui me dit non, c'est pas possible, il n'est pas disponible. Ok. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport avec Marc Madiot qui veut réagir à la polémique sur le cyclisme et les mondiaux. Plus précisément, quand on remet les mots à l'endroit, c'est plus facile, c'est de la radio. A tout de suite sur RMC. Hey,
mon grand !
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Hey, mon grand ! T'es grand aujourd'hui ! T'es grand !
Jean-Christophe Drouet.
10h49, on est de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Furios, Simon Dutin, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux. À partir de 11h, le bras de fer des GG, c'est votre nouvelle séquence dans cette émission. Il faut choisir un camp. Aujourd'hui, le sujet autour des célébrations de sportifs après l'épisode Neymar Haïfa ou encore la guéguerre en ce moment entre Vinicius et Coquet. Je vous explique tout, évidemment. Mais il y aura une team limite dans les célébrations et une team no limite. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Tout de suite, on s'en fout.
Le zapping des GG. Le retour.
Tour.
Plusieurs informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner dans ce zapping des GG. La polémique continue après le voyage en classe affaires des cyclistes pour les mondiaux. On s'en fout pas. Sarah Pitkowski.
Non, on s'en fout pas.
Christophe Cessieux.
Non.
On en parlait déjà hier, mais on s'en fout pas encore aujourd'hui.
Non, jamais.
Christophe Furios.
Non, on s'en fout pas.
On s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas. Alors je vous réexplique si vous venez évidemment de découvrir cette histoire. La Fédération française de cyclisme est donc sous le feu des critiques pour avoir décidé de faire voyager les coureurs en business et les femmes en classe éco pour rejoindre les mondiaux en Australie. 9 coureurs de cette équipe de France, dont Julien Alaphilippe, le double champion du monde, ont effectué ce périple dans des conditions plus confortables que le reste, que tout le reste de la délégation. Cette coureuse, évidemment, les espoirs, les juniors, filles et garçons, et le staff, les sportifs professionnels hommes, ont donc ainsi été privilégiés. Un choix tout à fait assumé par la Fédération française de cyclisme. Marc Madiot est avec nous pour réagir à cette polémique. Salut Marc, notre GG.
Salut à tous.
Salut Marc.
Bonjour.
Marc, choqué, pas choqué, c'est quoi ton sentiment, ton regard? C'est dans ton sport?
C'est dans mon sport et donc je suis un peu au fait de la situation. Le problème ou la polémique qui est actuellement sur les ondes ou sur les journaux, pour moi, n'est pas fondée. C'est une fausse polémique. Je vais m'expliquer sur tout cela. J'ai lu les déclarations du DTN et de la Fédération. Alors, je précise que je ne fais pas partie du fan club du président de la Fédé, donc mon avis est tout à fait, objectif. Objectif. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Le DTN a précisé que si le championnat du monde de VTT hommes et femmes avait eu lieu en Australie, il aurait mis les femmes en business class et les hommes en classe économique. Pourquoi la sélection homme route est en business class? Tout simplement parce que les deux dernières années, et c'est incontestable, le champion du monde était français avec l'équipe de France, en l'occurrence Alaphilippe. C'est l'unique raison pour laquelle on est dans cette situation. Mais moi, je trouve que la polémique devrait se situer ailleurs. Non pas sur le fait que ce soit des hommes ou des femmes qui participent en business ou pas. C'est plus le côté pourquoi les fédérations, notamment en France mais aussi à l'extérieur, pourquoi les fédérations n'ont pas les moyens de financer de manière équitable et se retrouvent dans l'obligation de faire des arbitrages, pourquoi les fédérations n'ont pas les moyens de mettre tout le monde en business class.
Pourquoi l'UCI, Marco, ne prend pas justement à sa charge, avec toutes les amendes qu'ils infligent aux coureurs tout au long de l'année, pour les bidons jetés en dehors de l'endroit où il faut les mettre?
Vous n'avez pas tort, messieurs, vous n'avez pas tort. La Fédération internationale, qui entre guillemets vend les championnats du monde à un organisateur, ne reverse absolument rien du tout aux fédérations de chaque pays. Rien. En France, ils ont fait un arbitrage qui vaut ce qu'il vaut, qui est discutable. On peut toujours discuter d'un arbitrage. Mais c'est pas une histoire homme-femme, ou comme on voudrait nous le laisser supposer à travers certains médias. C'est pas du tout, ça se situe pas du tout à ce niveau-là. Problème, c'est que vous avez des fédérations qui ont même renoncé à se déplacer parce qu'ils ont pas les moyens d'y aller. C'est tout. Voilà.
C'est un championnat du monde au rabais, si t'as pas toutes les nations qui peuvent participer déjà.
Déjà,
Simon Dutin.
Je suis désolé, ça pose la question de l'organisation des championnats du monde. Ok, il faut faire tourner, il faut que tout le monde ait ses championnats du monde. Mais ça pose la question de l'organisation des championnats du monde en Australie.
Bien sûr, il y a des Canadiens qui n'y vont pas.
Les Australiens peuvent aussi dire.
Et après, je suis désolé, Marc, effectivement, on peut pas reprocher à la Fédération française de cyclisme de pas foutre tout le monde en business. Moi, ce que je trouve invendable dans la justification, et je trouve ça terrifiant, vraiment, de dire, vous savez, s'il y avait eu les championnats du monde de cross et tout, on aurait mis les filles en business et les mecs.
Avec Pauline Ferrand-Prévot, avec qui gagne.
Ouais. C'est vraiment consternant.
C'est la vérité.
Et je suis désolé, à partir du moment où t'as pas les moyens de mettre tout le monde en business, tu mets personne en business et tu fais voyager tout le monde en classe.
Mais c'est un choix, de la Fédé, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est un choix de la Fédé. Encore une fois, je vous dis, je suis pas fan du fan club, mais c'est un choix, il vaut ce qu'il vaut. Mais vouloir en faire un débat homme-femme, des avantages de la femme, pour moi, ça n'est pas la réalité de la situation.
Ce n'est pas, selon toi, un débat sur le sexisme, c'est un débat sur la privilège, les privilèges quand on a gagné et le statut que l'on a. Donc forcément, c'est un peu plus confortable à l'image d'un Teddy Riner quand il voyage, évidemment, dans le judo, parce qu'il a gagné ses galons, j'ai envie de dire, de business. C'est un petit peu bizarre de dire ça. Christophe Furiaux, sur ses voyages, toi qui, évidemment, as affaire au voyage, non au char à voile, hein, on n'est pas dans cette polémique, on est dans une autre. Tu en penses quoi ?
Ouais, effectivement, c'est assez surprenant, mais après, effectivement, à partir du moment où il y a des règles qui sont mises en place, on peut toujours les discuter. Hein. Après, mais elles sont pas faciles à mettre en place quand même. Je vais prendre l'exemple nous de déplacement que nous avons en Coupe d'Europe. Donc, on nous impose cette année la Coupe d'Europe avec notamment cinq équipes
sud-africaines,
ouais. Et nous, on va dans une équipe sud-africaine, dans un championnat qui est extrêmement dense déjà. Donc, on nous impose un déplacement en Afrique du Sud qui est en plein milieu de l'hiver au mois de janvier et qui est pas simple. Et le RC, donc l'organisation de la Coupe d'Europe, nous prend en charge évidemment le voyage. Donc, on part à 42. Donc, c'est pas énorme, mais surtout avec une partie qui sera en business et l'autre qui sera dans la bétaillère. Donc, c'est pas simple à gérer quand tu...
Tu vas faire comment? Tirage au sort?
T'as pas de femme dans l'équipe. Tu peux pas les mettre au fond, donc, comme en vélo, quoi.
Non, j'ai pas de femme.
Parce que l'Afrique du Sud, c'est bien au sud de l'Europe, tu vois.
Ouais. Et voilà, donc, comment on fait? Bon, on en a pas encore parlé, c'est au mois de janvier, hein. Donc, mais c'est un vrai sujet, un vrai débat. Et en même temps, je comprends aussi le privilège de ceux qui ont gagné. Je vais vous prendre un exemple qui n'a rien à voir avec un déplacement. Mais nous, je vais prendre les jeunes. Quand on intègre des jeunes, on a toujours une dizaine de jeunes qui font partie de la saison avec nous. Donc, ça fait à peu près 45 joueurs, dont 10 jeunes, qui sont des jeunes à gros potentiel. Je me suis aperçu quand même que par le passé, les jeunes, une fois qu'ils étaient dans le vestiaire, ils avaient le placard, avaient leur nom, etc. Ce qui était important pour eux, c'était juste d'avoir le placard. Et ça me gonflait un peu, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir le placard, il s'agit de prendre le placard de celui qui joue à ta place, quoi. Et depuis 2 ans, j'ai partagé le placard en 2. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir un placard par gamin, ils sont 2 sur le placard. Et j'ai maintenant votre job, c'est d'avoir le placard pour l'année prochaine.
En entier.
En entier. Donc c'est un peu con quand même, hein.
C'est très très loin d'être con, mais ça a une démarche de construction.
Mais les gars, il faut gagner ça, parce que t'es pas là juste pour t'amuser et faire de...
Si tu veux avoir quelques privilèges, il va falloir les gagner.
Exactement. Donc je comprends un peu tout ça, quoi.
Donc si les filles veulent prendre la place de Julien Alaphilippe en business, il faut gagner un titre de championne du monde cette année.
Voilà. Merci Marc Madiot d'avoir été avec nous et d'avoir réagi à cette histoire, et à très vite sur RMC. Tu seras avec nous la semaine prochaine dans les grandes gueules du sport, dans ce studio. Voilà, dimanche 9h midi. Il a noté dans son agenda, et ça j'aime travailler avec le pro Marc Madiot. 10h57, on revient dans quelques instants, la dernière heure. Oh, il reste encore beaucoup de débats. Le bras de fer des GG sur les célébrations des joueurs. À tout de suite sur RMC.